Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très très importante série, c'est-à-dire le complot meurtrier contre Jésus. Et aujourd'hui, nous allons continuer et terminer l'étude numéro 2, et tout de suite, nous aurons donc notre étude numéro 3. Donc, Jésus prend du pain. C'est du pain sans levain, et il le bénit en rendant grâce à Dieu son Père. Ensuite, il rompt le pain et le distribue aux disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Or, ces paroles ne manquent indubitablement pas de secouer les disciples, car elles leur rappellent celles de Saint Jean, chapitre 6, où Jésus s'est décrit lui-même comme étant le pain de vie, la véritable manne venant du ciel. À ce moment-là, il s'adressait à des foules d'adeptes, dont plusieurs étaient des pseudo-disciples comme Judas, à qui il a déclaré « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. » Saint Jean chapitre 6 verset 53. On a d'ailleurs eu tant de mal à accepter ces propos que dès ce moment plusieurs de ses disciples se sont retirés et ils ne sont plus continués à aller avec lui, selon le verset 66 de Saint Jean chapitre 6. Donc rien dans tout cela ne saurait justifier la superstition fameuse et scandaleuse qui a donné naissance à la doctrine catholique romaine de la transsubstantiation, une notion sur laquelle le pain et le vin sont devenus de manière surnaturelle de la véritable chair et du véritable sang, donc de Jésus-Christ. Certains insistent pour dire que parce que Christ a dit « Ceci est mon corps » plutôt que « Ceci symbolise mon corps », il enseigne ici la doctrine de la transsubstantiation. Mais le contraire va de soi, car c'est une question de gros bon sens. Il est absolument impossible que les disciples aient pu eux-mêmes prêter à ces propos une interprétation autre que symbolique. Après tout, ici, son corps n'a pas encore été offert en sacrifice. Il est présent en chair et en os, et ils l'ont vu rompre le pain sans levain. À ce stade-là, l'idée que le pain puisse être véritablement transsubstantié en chair n'aurait absolument aucun sens. Toute la signification de ces paroles est irréfutablement symbolique, bien que les disciples n'en saisissent indubitablement pas tout à fait le symbolisme. Notons que la notion de transsubstantiation est à l'origine de toute une panoplie de superstitions et d'idolâtries grossières. Et il importe qu'on ne se méprenne pas sur ce que Jésus veut dire ici, pour ne pas altérer la signification de la Sainte Cène. Jésus institue ce qui deviendra un geste apposé en mémoire de sa mort. Saint Luc, chapitre 22, verset 19, et non pas un rite impliquant le sacrifice perpétuel de son corps. Une fois le pain mangé, il prend la coupe de vin, rend grâce de nouveau, et il dit « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés, pour le pardon des péchés de beaucoup de personnes. » Vous l'avez compris, Saint Matthieu chapitre 26, versets 27 et 28. Notons que le verbe grec pour rendre grâce est « eucharisto », duquel nous vient le mot « eucharistie », par lequel on désigne souvent l'observance de la Sainte Cène et rien d'autre. Ainsi le fait pour Jésus d'offrir aux disciples une coupe en leur disant « Buvez-en tout, car ceci est mon sang, et ne manquez certainement pas de les scandaliser. » Après tout, il s'agit bel et bien, on peut dire, d'une affirmation choquante à première vue, à laquelle on imaginera facilement que les disciples réagissent en se regardant avec étonnement et en murmurant entre eux sur ce qu'il peut bien vouloir dire. Le fait qu'il l'appelle mon sang, le sang de l'Alliance, est très significatif si on considère que toute alliance importante se ratifie toujours alors par l'effusion sacrificielle de sang. L'effusion de sang était donc un aspect essentiel de la ratification de toute alliance. Mais sous la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ a une double raison d'être. La nouvelle alliance a pour thème la rédemption. Et l'effusion du sang est essentielle à l'expiation des péchés. Après tout, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, selon Hébreux chapitre 9, verset 22. Et la vie de la chair, elle se trouve dans le sang. Je vous l'ai déjà donné sur l'autel, afin qu'il se serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Lévitique chapitre 17, verset 11. Malheureusement, la signification du sang de Jésus-Christ suscite bien des superstitions et des malentendus. Dans un ouvrage à succès, un auteur évangélique très célèbre a écrit qu'il y avait quelque chose d'unique dans la chimie du sang de Jésus-Christ. Il a soulevé l'hypothèse que le sang qui coulait dans les veines de Jésus n'était pas du tout humain, mais divin, puisque c'était celui de Dieu. Bien entendu, cela signifie que le corps de Christ n'était pas entièrement humain. Voyez-vous, beaucoup de gens croient que le simple fait d'évoquer le sang de Christ constitue un moyen puissant, même pour chasser les démons, une sorte de formule magique pour chrétiens. Or, des idées assez farfelues émanent de la même pensée superstitieuse dont découle la notion de la transsubstantiation. Lorsque l'Écriture sainte dit que nous sommes rachetés par le sang de Christ, cela ne veut pas dire que son plasma ou ses globules sanguins sont dotés d'un pouvoir surnaturel. C'est le sang absolument normal d'un homme qui coulait dans ses veines, comme la totalité de son corps était humain, absolument sous tous les rapports et sous tous les aspects. Le pouvoir du sang que nous chantons, elle résiste, ou réside plutôt, dans l'expiation que procure son effusion, et non pas dans le sang en tant que tel. De même, les références scripturaires au sang de Christ ne parlent pas du sang qui coulait dans les veines du Christ vivant, mais de l'expiation qu'il a offert à notre faveur par sa mort. C'est pas du tout pareil. Ceci mis à part, aucune autre effusion de sang n'aurait pu sauver les pécheurs, jamais. Ainsi, lorsque la Sainte Bible parle du sang de Jésus-Christ, elle désigne sa mort expiatoire. Je répète pour que ce soit bien compris, lorsque la Sainte Bible parle du sang de Jésus-Christ, elle désigne sa mort expiatoire et rien d'autre. Voyez-vous? Chers amis, dans notre étude numéro 3, cette étude d'aujourd'hui, nous avons la mise en garde contre la suffisance. La mise en garde contre notre suffisance. Jésus et ses disciples quittent donc la chambre haute pour aller prier seuls dans le jardin de Gethsémané. Pour ce faire, ils sortent de la ville, dépassent l'extrémité méridionale de la montagne du Temple, descendent dans la vallée du Cédron, puis remontent à mi-chemin la montagne des Oliviers. Gethsémané est une oliveraie. Son nom, qui lui vient d'un mot araméen, signifie « pressoir à huile ». Et cela laisse entendre qu'on y récolte des olives pour en faire de l'huile. Selon toute probabilité, il s'agit d'un jardin privé appartenant à quelqu'un qui permet à Christ, par amitié, de s'y retirer avec ses disciples intimes pour échapper au brouhaha de la ville et ainsi se consacrer à la prière et à l'enseignement en privé. D'ailleurs, il pousse encore aujourd'hui, il pousse sur cette site-là une oliveraie dont quelques oliviers ont plus de 2000 ans. Or, il est clair que ces arbres-là aient bel et bien été les témoins silencieux du drame qui s'est déroulé en cette soirée fatale. Les événements de cette dernière soirée pascale doivent donc sembler déroutantes pour les disciples. Jésus est clairement troublé, il est troublé dans son esprit parce qu'il l'attend. Oui, parce qu'il sait ce qu'il attend, des choses terribles. Notez Saint Jean chapitre 12 verset 27 et chapitre 13 verset 21. Les disciples n'ont pas l'habitude de le voir dans une telle disposition d'esprit. La Pâque est donc une occasion de réjouissance habituellement. Mais voilà, Jésus leur a dit le jour même tellement de choses ayant des implications déconcertantes et alarmantes, soit en chemin, soit à leur arrivée au jardin. Jésus a des faits encore plus inquiétants à révéler aux disciples qui restent. Alors Jésus leur dit, selon Saint Matthieu chapitre 26, verset 31 à 35, il serait pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » L'apôtre Pierre, prenant la parole, lui dit « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, car cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit « Oh, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples ont dit absolument la même chose. C'est Matthieu chapitre 26, versets 31 à 35. Quel véritable croyant en Christ n'a jamais réfléchi à ce qu'il ou elle ferait si il ou elle devait choisir entre renier Jésus et se faire tuer? Il arrive qu'on lise que des croyants modestes et ordinaires ont payé le prix suprême pour leur foi. On se rappellera Cassie Bernal et Rachel Scott, deux des victimes du massacre de la Columbia High School de Little Rock au Colorado. Des compagnons de classe qui étaient déchaînés les ont tirés à bout portant immédiatement après leur avoir demandé si elles croyaient en Dieu et qu'elles leur ont répondu par l'affirmative. Toute une série d'assauts violents de cette sorte-là ont donc d'ailleurs frappé des étudiants en réunion de prière. Peu avant la tragédie de Columbine, un malfaiteur armé avait tué plusieurs étudiants réunis pour prier autour du mât de drapeau d'une école au Kentucky. À la Wedgwood Baptist Church, il y avait une réunion de prière étudiante à laquelle participaient des centaines d'étudiants. Or, un fanatique anti-chrétien, enclin à la violence, est entré dans l'auditorium, armé avec une arme automatique à la main, et s'est mis à arroser de balles toute l'assemblée, tuant 8 personnes et blessant plusieurs autres. Au milieu de la tuerie, un jeune homme, Jeremy Knights, qui s'était récemment converti à Christ, laissant derrière lui une vie de crimes et de gangs de rue, ce jeune homme s'est levé pour oser témoigner de Jésus à l'intrus qui apparemment se trouvait totalement dérouté par son audace et par son refus de trembler devant la mort. Alors il a retourné l'arme contre sa propre tête et il s'est suicidé. Il nous arrive à tous de réfléchir de temps en temps à ce que serait notre réaction dans une telle situation. Peu d'entre nous s'attendent à subir une épreuve aussi pénible, mais nous osons espérer avoir le courage de mourir pour Jésus. Et nous prions pour que si jamais nous devions nous retrouver dans pareille situation, Dieu nous donne la grâce de lui demeurer fidèle. Mais la triste vérité, c'est que la plupart d'entre nous avons trop souvent renié le Seigneur dans des situations où notre vie n'était même pas en péril. Oui, ça donne à réfléchir. Or, les apôtres ne différaient en rien de nous. Ils sont devenus des témoins audacieux qui ont tous fini par mourir pour leur foi ou se faire persécuter, torturer ou exiler à cause d'elle. Mais ils n'ont pas toujours été si courageux. Rappelons-nous cette fameuse nuit où Jésus se fera trahir. Voilà que tous l'abandonneront en prenant la fuite pour sauver leur vie, selon saint Marc, chapitre 14, verset 50. Dans le passage à l'étude, aucun d'entre eux ne réalise pleinement combien ils sont loin, très loin d'être prêts à faire face à l'opposition. Alors qu'ils approchent du lieu où Jésus se fera capturer, celui-ci commence à les prévenir qu'ils tomberont tous et renieront tous et le renieront tous le soir même. Alors l'apôtre Pierre proteste impétueusement qu'il ne le reniera jamais, jamais. Seigneur, lui dit l'apôtre Pierre, sache que je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Saint Luc chapitre 22, verset 33. Il n'est d'ailleurs pas le seul à se surestimer, comme ceci en témoigne, et tous les disciples dirent la même chose. Saint Matthieu chapitre 26, verset 35. Bien que Jésus leur ait répété à plusieurs reprises déjà qu'on allait le trahir et le tuer, il y a moins de 2 heures qu'il leur a indiqué pour la première fois que le traître est un d'entre eux. Pour autant, ils ont eu beaucoup de peine à croire cela, autant ils ont la peine à croire ce qui leur révèle maintenant, c'est-à-dire que chacun d'entre eux va le soir même fléchir devant l'opposition, va donc l'abandonner. Ces paroles devraient être reçues comme une douce exhortation, les incitant à tomber face contre terre et à implorer Dieu le Père de leur donner la grâce et la force nécessaires pour triompher de l'épreuve. Mais voilà, au lieu de cela, les disciples semblent tenter de se donner de l'assurance en se glorifiant, en faisant preuve d'autodétermination et en clamant leur loyauté envers Jésus. En fait, ils ne font que se donner une fausse confiance en leur propre force, qu'ils surestiment grandement. Oui, ils sont sur le point de subir une épreuve à laquelle ils échoueront misérablement. Instant qui demeurera d'ailleurs gravé, on peut bien le dire, à jamais, dans leur mémoire, comme étant l'épisode la plus honteuse de toute leur vie. Une leçon d'humilité qu'aucun d'eux n'oubliera absolument jamais. Or, ce soir-là, tandis qu'ils approchent du jardin où Jésus se fera trahir et arrêter, aucun d'eux ne reçoit avec humilité l'exhortation empreinte de tendresse que Jésus leur adresse. Bien au contraire, ils protestent avec arrogance. Ils bombent le torse en se disant qu'ils sont prêts à tout supporter, tout cela par amour pour Jésus. Si seulement les disciples écoutaient Jésus, ils réaliseraient qu'il ne fait que leur rappeler gentiment leur incapacité à surmonter d'eux-mêmes une telle épreuve. Ainsi, plutôt que d'essayer de les motiver à prendre courage et à ne pas douter d'eux, il leur rappelle leur faiblesse et il les presse de rechercher sa force. Malheureusement, le conseil leur échappe à tous. Ils en ont beaucoup encore à apprendre sur la nécessité de porter leur croix pour suivre Jésus. Et pour ce faire, ils doivent prendre conscience de leur propre pauvreté spirituelle et puiser leur force en lui. Depuis le début de son ministère, tout son enseignement se compose de telles leçons. Rappelons-nous la toute première béatitude, ainsi que la phrase introductive du sermon sur la montagne. Notez Saint Matthieu chapitre 5, verset 3, où il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus a ainsi décrit une pauvreté d'esprit qui est diamétralement, totalement opposée à la confiance qu'on se donne en soi-même. Contrairement à Judas, les 11 disciples qui restent ne renieront pas Christ de manière délibérée et préméditée. Il est clair, selon le récit de Saint Matthieu, que la seule pensée de se montrer aussi lâche les dégoûte absolument, totalement. Ils considèrent le fait d'avoir honte de Jésus comme une des pires ou un des pires péchés qui puisse être, car après tout, Christ a lui-même déclaré. Il a déclaré, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, eh bien le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra ou quand elle viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Saint Marc chapitre 8 verset 38 et « Mais quiconque me reniera devant les hommes, eh bien je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est Matthieu chapitre 10, verset 33. Bref, un tel geste leur est inconcevable. Mais comme ils ne tarderont pas à l'apprendre, il est impossible d'être fidèle à Christ sans dépendre totalement de lui. Même le plus solide des disciples ne peut arriver à rien s'il compte triompher des épreuves avec courage et force uniquement par ses propres moyens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc, sans l'armure spirituelle du Seigneur, nous nous exposons aux pires défaites et ainsi aussi à la pire honte. Puis Jésus a affirmé à Pierre, « Simon, Simon, sache que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Saint Luc chapitre 22, verset 31. Comme l'indique le sens pluriel du pronom « vous », la mise en garde s'applique non seulement à l'apôtre Pierre, mais aussi aux autres. Et là encore, Pierre a répondu Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Verset 33. Ce au sujet de quoi Jésus a déjà prédit. Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié, que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Verset 34. Présumons à tort que le complot visant la capture de Jésus se réduira à un conflit humain. Pierre compte donc sur des ressources humaines, telles que son propre courage et son endurance physique, ainsi que, comme nous le verrons bientôt, aussi sur son épée. Verset 38. Mais voilà que ces armes s'avèrent toujours inadéquates dans le combat spirituel. Maintenant, ils sont arrivés au jardin. Jésus réitère, il répète sa mise en garde en termes plus explicites. Et il redit à Pierre, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » C'est Matthieu chapitre 26, verset 34. Mais la gravité de ce qui s'apprête à se produire semble complètement échapper à Pierre et aux disciples. Ils sont profondément blessés dans leur ego de ce que Jésus laisse entendre qu'ils l'abandonneront à l'heure de l'épreuve. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est protester contre le manque de confiance de Jésus envers eux. Ils cherchent tant à se montrer confiants qu'ils ne l'écoutent pas vraiment et ne saisissent absolument pas tout ce que implique sa mise en garde. Ils n'auront aucune excuse de se faire prendre de court. Mais de toute évidence, eh bien oui, ils n'ont pas la moindre idée de la portée de l'épreuve qu'ils vont traverser sous peu. Même après avoir reçu plusieurs avertissements de la part de Jésus, ils ont encore une fois, on peut dire, ils ont encore une foi totalement aveugle, uniquement en leur capacité. Et ils ne tiennent toujours pas compte de la tendre mise en garde du Seigneur. Or, il s'agit de leur part d'un aveuglement coupable et délibéré, enraciné, on peut bien le dire, dans l'orgueil et dans la suffisance. Mais voilà, ils sont sur le point de découvrir les dangers de l'orgueil à leurs dépens. Voyez-vous, ici encore, nous avons la preuve que Jésus est omniscient et exerce un contrôle souverain sur les événements qui ont cours. Le fait que les disciples se feront prendre de court est donc inexcusable. Mais Jésus sait pertinemment ce qui est sur le point de se produire. La faiblesse de ses disciples magnifie ainsi sa souveraineté. Quant à sa fidélité, elle contraste violemment avec leur infidélité. Sa force se manifeste parfaitement dans leur faiblesse. Jésus sait non seulement que les disciples vont l'abandonner, mais encore qu'ils ne tiendront aucun compte du fait qu'il les en aura prévenus. Il a déjà prié pour eux afin que leur foi ne défaille pas. Notez Saint-Luc chapitre 22, verset 32. Prière qui, comme toutes ses prières sera exaucée selon le plan et selon l'échéancier parfait de Dieu. Aucun de ces événements n'est donc fortuit. Tout se produira donc exactement comme Jésus l'a prédit. Cela met en évidence sa souveraineté absolue. Aucun événement survenant ce soir-là ne peut donc le surprendre. Jésus sait d'avance quels gestes poseront ses disciples. Judas et les soldats qui sont chargés de son arrestation. Remarquons les dernières paroles que Jésus adresse à ses disciples. Tout juste après avoir cité la prophétie portant sur la dispersion des brebis, il ajoute ceci. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. C'est Matthieu chapitre 26, verset 32. Il a d'ailleurs rassuré ses compagnons de la sorte dans la chambre haute où il a déclaré à l'apôtre Pierre que Satan les avait réclamés pour les cribler comme le froment. Mais Jésus leur dit, j'ai prié pour toi afin que la foi ne défaille point. Et toi, Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Saint Luc chapitre 22, verset 32. Et c'est ainsi qu'il s'y prend ce soir-là pour les rassurer quant au fait que même si leur monde semble être en train de s'écrouler, ils ont tous un ministère à venir auquel ils doivent se préparer. Car après tout, Jésus a tout pouvoir sur la mort, même dans le contexte de son propre assassinat. Bien entendu, à ce moment-là, ces paroles d'encouragement, on peut dire ces paroles d'encouragement, n'ont pas, on peut dire, le moindre effet pour l'instant sur les disciples. Mais, ils se les rappelleront ultérieurement et leur foi s'en trouvera absolument fortifiée, car ils l'ont déjà vu ressusciter des gens à plusieurs occasions. En effet, ils étaient là lors de la résurrection de Lazare, quand il a dit à Marthe, je suis, moi, la résurrection et la vie. Saint Jean, chapitre 11, verset 25. En fait, tout cela finira par faire jour dans leur esprit, mais pour l'instant, ils sont trop abasourdis et troublés pour comprendre ce qu'il veut dire par là. Ils accusent encore sans aucun doute le coup porté à leur ego, du fait que Jésus a prédit qu'ils le laisseront tomber. Et en ce moment-là, ils sont bien trop affairés à se redonner confiance pour mettre réellement leur foi en lui. S'ils arrivaient à surmonter leurs propres craintes et confusions, ils sauraient que Jésus est le même Seigneur absolument souverain qu'ils ont toujours connu. Il est autant maître de la situation maintenant que lorsqu'il a nourri des foules, lorsqu'il a guéri des malades et ressuscité des morts. Ils devraient donc encore voir en lui le Tout-Puissant qui leur permettra de surmonter toute cette épreuve. En fait, l'omniscience de Jésus devrait leur servir de se rappeler les preuves de sa complétude. Mais au lieu de cela, ils l'ont déjà abandonné dans leur cœur. On peut bien dire cela, en comptant beaucoup trop de s'en sortir par leurs propres moyens. Voilà que les promesses empreintes de grâce que Jésus-Christ leur a faites concernant leur ministère à venir révèlent l'amour et la miséricorde qu'il éprouve déjà pour ces hommes, avant même, on peut bien le dire, qu'ils se laissent tomber. Et puis, on peut dire que, en effet, jamais ils ont pensé qu'ils pourraient le laisser tomber. Alors, conformément à sa promesse, eh bien, oui, il les précédera en Galilée, comme il l'a dit, promesse qu'il renouvellera immédiatement après sa résurrection par la bouche de l'ange qui apparaîtra à Marie de Magdala et à l'autre Marie à l'entrée du sépulcre de Jésus. Voici que l'ange dira à ces deux femmes. Il leur dira: et allez maintenant promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, c'est Matthieu chapitre 28, verset 7, Christ apparaîtra d'ailleurs en personne aux deux femmes quelques instants plus tard pour réitérer lui-même ces instructions-là. Il leur a dit: ne craignez pas, mais allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. Verset 10 de Saint Matthieu chapitre 28. C'est donc là, en Galilée, que Jésus apparaîtra à l'apôtre Pierre et lui pardonnera son infidélité. L'apôtre Pierre, ainsi que Jacques, Jean et plusieurs autres disciples, se seront alors remis à la pêche. Or, ayant pêché toute la nuit en vain, ils verront au lever du jour, voilà qu'un homme qui se trouve sur la berge qui leur dira: jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Saint Jean chapitre 21 verset 6. Et ils lui obéirent promptement et prendront ainsi tant de poissons qu'ils n'arriveront pas à ramener les filets à bord. Alors là, l'apôtre Pierre reconnaîtra Jésus sur le champ, car c'est exactement ce qui s'était produit lorsque Jésus-Christ l'a rencontré pour la première fois et l'a appelé à le suivre. Saint Luc chapitre 5, versets 4 à 11. L'apôtre Pierre se jettera alors à l'eau et nagera jusqu'à Jésus, qui sera en train de préparer amoureusement le petit déjeuner pour les disciples. Après ce repas matinal, Jésus-Christ demandera à Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? À cela, Pierre répondra: oh oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Saint Jean, chapitre 21, verset 15. C'est une réponse assez timide et plutôt incertaine. Notons que l'apôtre Pierre emploiera un mot différent pour « amour » que celui que Jésus aura employé. L'apôtre Pierre évoquera l'amour fraternel en négligeant de répondre à la dimension la plus importante de la question de Jésus. Il ne dira donc pas s'il juge son amour pour Christ comme étant plus grand que celui de tous les autres. Il est donc certain que son amour pour Christ n'aura pas diminué, oh non, jamais, mais il se gardera dès lors de donner libre cours à son impétuosité. On se rappellera que dans le jardin, il se sera vanté d'être prêt, même à mourir pour Christ, pour le laisser tomber, hélas, l'instant d'après. Il se montrera donc maintenant très prudent dans ce qu'il avancera. Il aura renié Christ à 3 reprises. Et c'est pourquoi Christ lui donnera 3 occasions de lui exprimer son amour. Mais voici ce que rapporte l'apôtre Jean à ce sujet. L'apôtre Pierre fut très attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, et tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes brebis. » Saint Jean, chapitre 21, verset 17. Notons que l'apôtre Pierre fera appel à l'omniscience de Jésus, encore piqué au vif par son propre échec. L'apôtre Pierre sera alors profondément conscient, très conscient, de ce que Jésus l'aura prévu. C'est que Jésus, ayant plongé les regards dans le cœur de Pierre, le connaît beaucoup mieux que lui-même ne se connaît. Jérémie chapitre 17, verset 9. Pierre réalisera alors que Christ sait parfaitement quel est son degré d'engagement et qu'au chapitre de l'amour pour Jésus, il bomberait le torse inutilement. Sans compter que sa propre défaillance aura eu raison de sa suffisance. Donc, on peut dire qu'il en sera probablement venu à douter même de sa propre aptitude à bien juger de son amour pour Christ. Et voilà donc pourquoi il fera appel à l'omniscience de Jésus qui se sera montré infaillible tout au long du drame. L'apôtre Pierre aura ainsi appris une très grande leçon et il se mettra à faire davantage confiance à la toute-puissance de Jésus que à ses propres capacités. Il comptera dès lors sur Jésus pour sonder son propre cœur plutôt que de présumer de tout savoir. Son orgueil, en ayant pris un sale coup à cause de sa défaillance, il n'y aura alors plus trace en l'apôtre Pierre de cette fameuse suffisance fanfaronne qu'il aura affichée en chemin vers Gethsémané. Moins de 40 jours plus tard, lors de la Pentecôte, l'apôtre Pierre se tiendra avec courage devant une grande foule, parmi laquelle plusieurs auront d'ailleurs contribué à faire crucifier Jésus. Et à cette occasion-là, l'apôtre Pierre proclamera l'Évangile avec une assurance toute nouvelle. Il ne fera plus preuve de son habituelle suffisance téméraire, mais de cette sainte assurance qu'il devra à la maîtrise en lui du Saint-Esprit. En fait, après la Pentecôte, les 11 disciples seront des hommes manifestement totalement changés. ces hommes qui par lâcheté et par crainte auront abandonné leur maître témoigneront alors pour lui avec intrépidité, si bien que lorsque le souverain sacrificateur, celui-là même qui les aura fait trembler la veille de la crucifixion de Jésus, leur interdira, en effet, il leur interdira de prêcher. Mais ils ne l'écouteront pas du tout et lui répliqueront « Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Actes chapitre 5, verset 29. Bien qu'ils se feront battre, emprisonner et menacer de mort, ils continueront donc de prêcher. En effet, lorsque un ange les fera sortir surnaturellement de prison, au lieu d'aller se cacher, ils retourneront directement au temple pour s'y remettre à prêcher publiquement sous le nez du souverain sacrificateur. Actes chapitre 5, versets 18 à 21. S'agira-t-il alors, on peut se poser la question, des mêmes hommes que ceux qui auront abandonné Jésus et qui auront fui à l'heure de sa trahison? Absolument pas. Ce seront effectivement les mêmes hommes, mais, désormais, ils sont remplis du Saint-Esprit qui, ils puiseront alors leur force totalement ailleurs que en eux-mêmes. Ils auront mis de côté leur fameuse suffisance insouciante pour dépendre entièrement de leur Seigneur. Voilà donc qui fera toute la différence. Ils auront manifestement tous tiré une très grande leçon de leur propre défaillance. Ces mêmes hommes qui auront tous abandonné Jésus pour fuir la nuit de son arrestation passeront le reste de leur vie à défendre la cause de Jésus contre toutes sortes de menaces et de persécutions imaginables, si bien qu'ils n'abandonneront jamais plus leur bien-aimé Seigneur. Voici donc la plus grande preuve de la complétude de Jésus-Christ. Par sa grâce, Jésus rétablira et habilitera ses hommes de la manière à ce qu'ils puissent le servir, même à la suite de la pire des catastrophes spirituelles. Sa grâce, qui suffit à tous les rachetés, les rachètera de leurs pires échecs, car en effet Jésus-Christ les ramènera alors à lui, il leur pardonnera tout, il les mandatera pour le service et les habilitera de la manière à leur permettre de réussir là où ils auront déjà échoué si lamentablement. Amen. Chers amis, pour aujourd'hui, nous terminons ici. Nous reprendrons demain matin, Dieu voulant. Et maintenant, j'aimerais vous transmettre quelque chose pour votre édification personnelle, mais aussi pour votre encouragement, pour vous encourager. Écoutez bien. Contemplez les exemples des saints pères en qui reluisait la vraie perfection de la vie religieuse et vous verrez combien peu est ce que nous faisons et c'est presque rien. Hélas, qu'est-ce que notre vie comparée à la leur? Il y a des missionnaires et les amis de Jésus-Christ qui ont servi Dieu dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans les veilles et dans les jeûnes, dans la prière et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobres. Oh oui, que de pesantes tribulations ont souffertes les apôtres, les martyrs, les missionnaires, les sœurs dévouées dans les hôpitaux, à tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus-Christ. Ils ont haï leur âme en ce monde pour la posséder dans l'éternité. Oh, quelle vie de renoncement et d'austérité que celle des missionnaires dans les pays, on peut dire, hostiles, voire même dangereux. Quelle longue et dure lutte ils ont essuyée. Que de fois ils ont été tourmentés par l'ennemi. Que de fréquentes et ferventes prières ils ont offertes à Dieu. Quelle rigoureuse abstinence ils ont pratiquée. Et quel zèle, quelle ardeur pour leur avancement spirituel, et quelle intention pure et droite, toujours dirigée vers Dieu. Ils travaillaient pendant le jour et passaient des heures en prière, et même durant le travail, ils ne cessaient point de prier, même en esprit. Oui, tout leur temps avait un emploi utile. Les heures qu'ils donnaient à Dieu leur semblaient courtes, et ils trouvaient tant de douceur dans leur travail qu'ils en oubliaient les besoins personnels. Ils renonçaient aux richesses, aux dignités, aux honneurs, à leurs amis, à leurs parents. Ils ne voulaient rien du monde. Ils prenaient à peine ce qui était nécessaire pour la vie, s'occuper du corps même dans la nécessité leur était une affliction. Ils étaient pauvres des choses de la terre, mais ils étaient riches en grâce et en vertu. Au dehors, tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au-dedans par sa grâce et par ses consolations. Ils étaient étrangers au monde, mais ils étaient unis à Dieu et ses amis familiers. Ils se regardaient comme un pur néant, et le monde les méprisait, mais ils étaient chéris de Dieu et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et ils devenaient ainsi chaque jour plus parfaits et plus agréables à Dieu. Ils ont été donnés en exemple à tous ceux qui professent la véritable religion chrétienne, et ils doivent nous exciter plus à avancer dans la perfection que la multitude des tièdes qui, eux, nous portent au relâchement. Aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un chrétien ne viole point sa règle et qu'il porte patiemment le joug dont il s'est chargé. Ô tiédeur, ô négligence de notre état qui a vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur. Maintenant, tout fatigue ainsi que notre lâcheté nous rend la vie ennuyeuse. Plus à Dieu, oui, on peut dire que ça puisse plaire à Dieu qu'après avoir tant vu d'exemples d'hommes et de femmes vainement pieux, vous ne laissiez pas entièrement s'assoupir en vous le désir d'avancer dans la vertu. Amen. Et chers amis, maintenant, prions ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, tout nous dit que tu es la lumière du monde. Tu dis que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. le ciel n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Seigneur, tu nous dis, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Oui, auprès de toi se trouve la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Merci de nous éclairer, car ta lumière, elle arrive, car l'Éternel sera notre lumière à toujours. Oui, Seigneur, nous voulons tous marcher comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Oui, Seigneur, tu es vraiment notre lumière. Amen. Et chers amis, j'aimerais simplement vous dire que Dieu vous aime. N'oubliez jamais cela. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace, je vous embrasse tous, et je vous dis oui, je vous aime, et soyez bénis. Et maintenant, je vous mets quelques chants d'un assez lointain passé, figurez-vous, environ 1954, et évidemment, vous comprendrez que le son ne peut plus être aussi parfait, et même les appareils n'étaient pas comme aujourd'hui. Mais essayons tout de même, et vous recevrez, croyez-moi, une bénédiction par ces chants.
Things today is I found the answer.
I was weak and weary. I had gone astray. Walking in the darkness, I could not find my way. Then a light came shining to lead me from despair. All my sins forgiven, and I was free from care. I found the answer, I learned to pray. With faith to guide me, I found my way. For me each day, I found the answer, I learned to pray. Keep your Bible with you, read it every day. Always count your blessings, always stop and pray. We'll see you through. Seek to know contentment, and it will come to you. I learned to pray. With faith to guide me, I found my way. The sun is shining for the answer. I learned to pray. I found the answer. I learned to pray.
Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the judge the world in righteousness. He shall judge the world in righteousness and the people with his truth.
Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the sea roar and the fullness thereof. Let the fields be joyful and all that is therein them. Shall all the trees of the woods rejoice before the Lord.
I will sing.